La ville de Tours comporte 7 quartiers prioritaires. Les Fontaines, Roche-Pinard, Rive-du-Cher, Sanitas Rotonde, Maryse-Bastier, Bordeloire et Europe-Châteaubriand. Nous rencontrons Marion Nicolet Cabane, première adjointe à la mairie de Tours. Stéphanie Picot, directrice de la direction de la cohésion sociale de la ville de Tours. Olivier Rossi, directeur de la maison de la réussite.
L'accompagnement, ce qu'on appelle l'aide de tous les jours, l'aide du quotidien, c'est aider les gens dans la lecture d'un document, la traduction d'un document, dans rédiger une lettre.
Ça peut être à remplir des formulaires, ça peut être faire des démarches en ligne, ça peut être tout ce qui est accès aux droits. Ça peut être des jeunes, là en ce moment j'ai pas mal de jeunes qui sont là en recherche de stage, donc du coup tu peux pas m'aider à chercher un stage, tu peux pas m'aider à trouver quelqu'un qui me prenne et faire un CV, une lettre de motivation.
Bonjour Marion-Nicolet Cabane.
Bonjour.
Alors vous êtes première adjointe à la vie associative, à la mairie de Tours, c'est bien ça?
C'est ça, oui.
Est-ce que pour nos auditeurs, vous voulez peut-être préciser, expliquer en quoi consiste votre fonction?
Alors ma fonction consiste à mener les politiques, enfin à définir plus précisément les politiques dans le domaine de la vie associative, dans le domaine de la politique de la ville, en grande partie grâce à la Maison de la Réussite. Et puis j'ai tout un volet social avec le Centre communal d'action sociale, le CCAS.
Donc nous sommes aujourd'hui à la Maison de la Réussite. Voulez-vous expliquer à quoi sert ce lieu et pourquoi il s'appelle Maison de la Réussite?
Alors la Maison de la Réussite, c'est un très beau lieu qui est ouvert depuis 4 ans maintenant, 3-4 ans, et qui sert finalement aux habitants des différents quartiers prioritaires. D'un côté aux jeunes, puisqu'il y a du soutien scolaire et de la préparation aux examens. Et puis pour les adultes aussi, pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'entreprise ou qui tout simplement ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions concernant leurs droits, par exemple.
Comment ça fonctionne, une maison de la réussite? Quelle est l'équipe qu'on peut y trouver?
Alors, la Maison de la Réussite est ouverte à tous. Pas besoin de rendez-vous pour venir la première fois. On entre. Vous êtes accueillis à l'entrée par Florence. Merci. Donc, vous êtes accueillis. Vous expliquez pourquoi vous avez poussé la porte. Et en fonction, eh bien, on vous écoute, on vous oriente. Il y a des entretiens individuels. Et à partir de là, eh bien, vous restez à la Maison de la Réussite. Et puis, soit vous avez des contacts avec l'équipe, qui est composée de profils divers. Donc, c'est ça qui est intéressant. Des gens du quartier, des gens qui sont pas du quartier, des gens qui ont un côté plus social, d'autres un côté plus professionnel. Et puis il y a aussi différentes associations qui interviennent et qui peuvent répondre à des questions spécifiques.
Pourquoi cette Maison de la Réussite, elle a été implantée justement au Sanitas?
La Maison de la Réussite, elle a été implantée au Sanitas parce que c'est le quartier prioritaire qui est le plus pauvre de la ville, avec qui est très grand aussi, puisqu'il représente quasiment un quart du centre de la ville de Tours. Et on sait que dans ces quartiers, les habitants ont parfois une autocensure, c'est-à-dire n'osent pas aller vers des dispositifs institutionnels comme la Chambre des métiers quand ils ont envie de créer leur projet, n'osent pas dire qu'ils ont des difficultés pour accompagner leurs enfants à l'école. Et là, en ayant un lieu au cœur du quartier, c'est pour eux beaucoup plus facile d'aller pousser la porte et de rencontrer une équipe qui est à leur écoute.
Alors pour qu'on comprenne bien, faut dire que la Maison de la Réussite, ce n'est pas un centre social.
Non, rien à voir avec un centre social. On est vraiment là pour accompagner les jeunes et les adultes vers un avenir professionnel important et intéressant pour eux.
Une des précisions par rapport à un centre social, effectivement, c'est qu'ici, on accueille les gens vraiment en individuel, là où un centre social va aussi beaucoup baser ses actions sur le collectif. Voilà. C'est ce qui nous différencie aussi beaucoup des activités d'un centre social traditionnel.
Et alors vous, en tant qu'élu, comment vous intervenez ici? Comment vous regardez ce qui s'y passe? Est-ce que vous êtes aussi peut-être une personne référente? Est-ce que vous donnez des conseils? Comment vous travaillez avec les personnes d'ici?
Alors, je donne pas de conseils, hein, parce que moi, je suis pas professionnelle du tout. Moi, je passe une fois par mois à peu près pour faire le point avec l'équipe sur les besoins, les avancées, les difficultés. S'il y a des difficultés, comment on peut les lever? Et puis surtout, mon rôle, c'est de les appuyer, de faire connaître le travail qu'ils font, parce qu'ils font un travail qui est vraiment formidable, et vraiment de les accompagner au quotidien.
Quelles actions vous avez pu mettre en place avec cette équipe depuis que vous êtes dans cette fonction?
Alors on a travaillé avec les différentes associations, on a une charte des associations qui interviennent dans la Maison de la Réussite et par exemple on a fait une réunion il n'y a pas très longtemps pour que chaque association fasse un petit peu le point, le bilan des activités qu'elle a menées ici. Le ressenti de l'équipe est aussi très important, voir s'ils sont en adéquation avec le public qui passe ici et puis remettre un cadre complet pour ça.
Comment vous pouvez rendre compte de l'activité de cette maison de la réussite, par exemple en conseil des élus? Comment vous en parlez? Qu'est-ce que vous avez envie de leur en dire?
Alors, je leur dis que c'est un lieu qui est devenu un lieu extrêmement identifié par les jeunes, ce qui a amené la maison de la réussite à étendre ses activités, puisqu'au départ, elle ne s'adressait qu'aux lycéens. Et puis, depuis cette année, ils ont ouvert l'accompagnement dès la troisième. C'est un taux de réussite aux examens qui est vraiment très important pour les jeunes qui s'investissent ici ou qui viennent travailler ici dans les examens. Et ça contribue aussi à ouvrir les esprits des jeunes qui viennent. On parlait tout à l'heure... c'est par exemple un jeune qui est parti faire un stage à Polytechnique et qui peut-être, c'était sûr, avait les compétences d'y aller, mais peut-être ne se serait pas autorisé à y aller si il n'avait pas pris confiance en lui ici.
Alors sur les différentes activités de la Maison de la Réussite, donc elles se décomposent essentiellement en trois parties. Le soutien scolaire, l'accueil des habitants pour les démarches administratives du quotidien. On a un problème, un papier qu'on ne sait pas lire. On vient, on pousse la porte, soit on réoriente vers des partenaires, nous c'est le boulot, soit on fait nous. Mais donner une première écoute, un premier accompagnement du quotidien sur toute demande. Et la troisième, elle est liée à l'entreprise, c'est-à-dire être en lien avec les différents partenaires qui aident les gens à monter leurs entreprises, effectivement pour éviter le phénomène plafond de verre. C'est-à-dire j'ai envie de créer ma boîte, mais je me sens pas les capacités. Ici, on écoute le projet, quel qu'il soit. Il y a beaucoup de projets à journée, parce que on est sur de la base des projets. Mais on a aussi pas mal de succès, des projets qui se montent. On est à peu près sur une vingtaine de projets qui aboutissent, 20% des projets à peu près qui aboutissent chaque année. Ce qui est pas mal déjà.
Vous voulez nous donner des exemples, par exemple, de projets qui ont pu naître avec un accompagnement de la Maison de la Réussite?
Oui, par exemple, on peut citer Science Cities. C'est une dame habitante du Sanitas qui voulait arriver à peu près à 50 ans, utiliser les diplômes qu'elle avait eus plus jeune, notamment en physique et en sciences, et qui était passionnée d'astronomie. Et aujourd'hui, à 50 ans, elle a monté une petite structure qui s'appelle Science Cities, qui bosse au Sanitas aussi, et qui fait des cours d'astronomie et des animations autour de l'astronomie. Ça, c'est un projet d'entreprise qu'elle a monté, dans lequel on l'a accompagnée, une jeune femme qui a monté aussi... on a eu un food truck, on a eu qui se sont montés, on a un monsieur qui veut faire du maraîchage en ce moment. On a des projets extrêmement originaux.
Dire aussi que dans ce quartier, les gens aspirent à des milliers de choses.
La diversité des projets qu'on voit justement montre effectivement qu'on n'est pas sur des quartiers monotaches. On est sur des quartiers avec des gens qui vivent et qui ont des projets comme dans tous les autres quartiers de Tours. Seulement ici, ils ont plus de difficultés pour y arriver. Donc on est là pour essayer de les accompagner.
Est-ce que vous voulez dire un mot de ce jeune homme dont parlait l'élu tout à l'heure, là, qui a pu aller à Polytech? Qui est-il et comment il s'est retrouvé là?
Il s'est retrouvé à la Maison de la Réussite parce qu'on fait du soutien scolaire, que c'est son entourage familial, il me semble, pour lui, qui l'a poussé à venir chez nous parce que... les résultats étaient pas top et qu'il y avait un risque qu'au bout d'un moment, il décroche. Ce qui est effectivement dommage parce qu'après 2 ans chez nous, là, il est en stage science à l'École Polytechnique Militaire de Paris et il est arrivé à ce stage sur recommandation de son professeur de mathématiques et via le partenariat qu'on a avec à la Maison de la Réussite avec l'École Polytechnique. Donc oui, c'est une jolie réussite. C'est la preuve qu'il faut que l'entourage familial s'occupe de ces jeunes et les conseille. C'est la preuve qu'il y a des lieux dans lesquels on peut réussir et qui sont plutôt positifs. Il n'y a pas que nous, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des centres sociaux, voilà, mais ça fonctionne quand on prend le temps d'écouter les gens et de pas les brider ou de pas les orienter vers ce qu'on pense qui est bon pour eux, mais qu'on les écoute. Voilà.
Comment vous travaillez d'ailleurs avec les autres structures, les autres associations qui sont sur le quartier? Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Donc avec quels acteurs vous travaillez le plus régulièrement, disons?
Alors on travaille déjà dans le cadre du le PST, le projet social de territoire du Sanitas, qui est une instance qui regroupe à peu près tous les partenaires du territoire, institutionnels déjà, le département, la CAF, l'État, donc tous les institutionnels, le CCAS, et ensuite tous les partenaires associatifs du quartier, au premier rang desquels on va retrouver le centre social, L'association Courteline qui gère l'accueil de loisirs du Sanitas, Médiation et Parentalité 37, la régie de quartier, tout à fait. Voilà, on travaille avec tous les partenaires du quartier, on n'a pas de limite particulière à ce niveau-là. En tout cas, on ne s'en impose pas et le PST est d'une grande aide à ce niveau-là. C'est un bel outil.
Soutien scolaire, en fait, il est ouvert aux élèves inscrits en troisième et plus de la troisième, donc toute seconde, première terminale, CAP, bac pro, même une personne qui travaille, qui veut passer un concours en candidat libre.
Donc on fait de l'aide aux devoirs, on fait aussi de la préparation aux examens, on fait aussi des séances complètement individualisées où on peut reprendre des points de programme, de la méthodologie, puis on va aussi discuter de qu'est-ce qu'on fait après l'examen. On est assez content pour eux, pour l'instant, ça fait 2 années de suite qu'on a 100% de réussite à ces examens pour les jeunes qui les passent.
Et c'est grâce à Maison de la Réussite que ma fille a eu son brevet.
Alors, puisque l'accueil aussi a été étendu, comme le disait Madame Nicolet Cabane, quels seraient peut-être les besoins de la Maison de la Réussite pour continuer à accueillir le plus de monde possible?
Stéphanie Picot. Donc, je suis la directrice de la cohésion sociale à la ville de Tours. Et les besoins supplémentaires pour accueillir, effectivement, on a des salles très très sympathiques où on fait tous ces cours de soutien, toutes ces préparations, examens, et on est limité en bénévole et en place au bout d'un moment. Et puis après, ça va devenir une usine. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore à échelle humaine, mais malgré tout. Moi, je suis pas contre les tentes parce que les besoins sont énormes. Mais voilà, faut qu'on réfléchisse. Après, on va avoir tout près d'ici une maison des associations qui pourra sans doute nous laisser un peu de place très régulièrement puisqu'elle est gérée dans la même direction et pour offrir de nouvelles possibilités aux jeunes des quartiers. Et après, il faudra qu'on ait recours à de nouveaux bénévoles motivés. Ce qui fonctionne beaucoup, c'est de travailler avec des pairs, c'est-à-dire des jeunes apprennent aux jeunes et ça fonctionne plutôt bien plutôt que ça fonctionne aussi, les instituteurs retraités, etc. Mais on sait que l'exemplarité du jeune qui n'est pas beaucoup plus vieux que la personne aidée, ça fonctionne très très bien. Notamment sur le fait de briser les plafonds de verre, ce que disait Olivier tout à l'heure dans son histoire de jeune qui fait un stage à Polytechnique. C'est lié au fait que chaque année, dans le cadre d'un partenariat avec Polytechnique, on accueille un stagiaire pendant plusieurs mois qui participe au soutien scolaire et qui montre que déjà Polytechnique existe, puisque je pense que beaucoup de monde ignore l'existence des grandes écoles, même si en termes de discrimination positive, les grandes écoles permettent à des enfants des quartiers prioritaires excellents d'y accéder. Mais aujourd'hui, il y a une vraie méconnaissance de l'existence de ces écoles, des vrais freins psychologiques et qui ne sont pas du tout des freins d'apprentissage, puisqu'on a des gens extrêmement brillants qui passent dans nos murs. Mais voilà, je pense notamment sur des matières comme les sciences et les mathématiques. Peu importe nos origines, il n'y a pas besoin d'un bagage culturel fort au départ. C'est vraiment une gymnastique intellectuelle. Je comprends, c'est beaucoup plus clivant en termes de littérature, sur d'autres matières, mais les mathématiques et les sciences, on part tous de zéro et on a tous les mêmes chances, me semble-t-il, au départ.
Sur la Maison de la Réussite, c'est à peu près 400 personnes qui profitent de nos services chaque année. 200 personnes suivies individuellement, ça veut dire des personnes qu'on voit plus de 3 fois dans l'année. 70 jeunes qui sont inscrits sur le soutien scolaire, une trentaine qui ont passé leurs examens cette année. On n'a pas encore tous les résultats à l'heure actuelle, mais on est plutôt pas mal. On va être sur des taux de réussite qui sont aux alentours de 90% cette année pour les jeunes qui se sont investis un peu dans le programme. On était à 100% sur les autres années, mais on était sur des chiffres plus petits. Donc l'échelle augmentant, il y a forcément un peu plus de gens qui ne l'ont pas. Parce qu'on est sur une augmentation du nombre de lycéens d'environ 40% chaque année. Donc les besoins sont là. Sur l'aide administrative du quotidien, là, on est sur une augmentation qui est presque de 100% par an en termes de nombre de personnes accueillies. Et la fréquentation des autres lieux qui font à peu près la même chose que nous ne baisse pas. Je pense notamment à l'accueil du centre social pluriel. On bosse beaucoup avec eux là-dessus. On réfléchit beaucoup ensemble à ces questions de qui fait quoi, comment on accueille les gens correctement. Leur accueil à eux ne baisse pas. Donc et nous, il augmente. Donc ça veut dire que les besoins sont vraiment présents sur le territoire. Voilà. Donc.
Les besoins sont présents effectivement sur le territoire, mais pas uniquement sur le Sanitas, puisqu'on voit que la maison de la réussite est fréquentée, on va dire, pour moitié d'habitants du quartier, mais pour une autre moitié d'habitants d'ailleurs de la ville, voire même de quelques villes limitrophes à Tours. Donc c'est vraiment un lieu qui est identifié, un lieu ressource qui est identifié, notamment pour les jeunes. Et c'est très important parce que ça montre aussi qu'on peut être localisé en plein cœur d'un quartier prioritaire et pour autant avoir une attractivité sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est très important de le souligner. Ça veut dire que les quartiers sont ouverts et que quand on passe cela encore des barrières de représentation, et bien finalement on peut y trouver des ressources qui servent à l'ensemble de la population.
Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire, Madame Nicolet Cabanne, parce que ça m'arrivait de croiser des jeunes qui s'étaient montrés extrêmement vexés, parce que pour eux c'était vexant qu'on les ramène sans cesse au quartier d'où ils venaient. Et que ça tempérait ou que ça expliquait leur réussite, soit parce que finalement ils ont été préférés, on leur a facilité le chemin parce qu'ils venaient de tel endroit, ou alors que, comme c'était inespéré, c'est d'autant plus réussi. Et ça, j'ai entendu des jeunes qui en étaient extrêmement vexés. Et je ne sais pas si vous avez pu observer ça, en fait, si ça vous est arrivé.
Ce que vous dites prouve surtout qu'un quartier prioritaire n'est pas un lieu anodin. Un quartier prioritaire, c'est par définition un lieu où les gens sont forcément plus pauvres qu'ailleurs. C'est la définition même d'un quartier prioritaire, c'est le niveau de revenus par habitant et par foyer qui le définit. Donc à partir de là, c'est des gens qui, à la base, connaissent beaucoup plus d'obstacles qu'ailleurs. Et dire que c'est des quartiers comme des autres aujourd'hui, c'est pas vrai. Sinon, il n'y aurait pas plus de moyens qu'ailleurs. Donc après, l'identification qu'un jeune a à son quartier, malheureusement pour lui, et c'est comme ça, et personne n'y peut rien, elle sera positive, négative, un peu des deux, ils vont jouer avec de temps en temps. Moi, je suis content d'entendre dire qu'ils sont vexés qu'on leur dit ça, parce que ça veut dire que finalement, eux, ils y sont allés. Effectivement, vous trouverez toujours des gens qui rabaisseront d'autres gens à leurs conditions, et ça, nous on lutte contre et on passe notre temps à lutter contre. Après, la politique de la ville est par définition une politique de discrimination positive pour venir en aide à des quartiers qui en ont plus besoin. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui ont plus de besoins dans ces quartiers que dans d'autres. Ça veut pas dire que c'est toute la population de ces quartiers qui a des besoins. Et du coup, ça peut être compréhensible que quand il y a des gens qui habitent ces quartiers mais qui n'ont pas besoin des aides publiques, on peut comprendre qu'ils puissent se sentir vexés qu'on les renvoie à ce quartier-là. Mais c'est tant qu'il y aura des quartiers, ce phénomène-là sera assez inévitable.
En fait, le but même de la politique de la ville, c'est de réduire les inégalités entre ces quartiers pauvres, avec peut-être moins de services et moins de possibilités pour les gens, et les autres quartiers de la ville. C'est vraiment le but de la politique de la ville. Donc effectivement, un lieu comme la Maison de la Réussite, ça s'adresse d'abord aux habitants de ce quartier, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi très bien que ce soit identifié par le reste de la ville, parce que c'est finalement se rendre compte que dans les quartiers prioritaires, les problématiques qui existent, elles sont réelles, mais elles sont concentrées par rapport à ce qui existe dans le reste de la ville. Ça ne veut pas dire que les problématiques n'existent pas ailleurs dans la ville. Elles existent, mais de façon moins concentrée. Et finalement, apporter une réponse dans un quartier prioritaire, ça peut, comme ici, apporter une réponse à l'ensemble des jeunes de la ville. Et ça veut dire aussi que la politique de la ville, finalement, porte ses fruits, parce qu'elle arrive à réduire les inégalités. Et réduire les inégalités, ça passe aussi, on l'a dit plusieurs fois, sur les freins psychologiques des habitants du quartier, pour eux-mêmes, et des habitants des autres quartiers envers les quartiers prioritaires. Et c'est tout un travail de longue haleine à faire. Et plus on aura des jeunes qui sortiront comme ça, qui auront des beaux parcours et qui interpelleront les autres par leur réussite, et plus on arrivera finalement à normaliser l'image de ces quartiers et de ce qui peut s'y passer et mettre en valeur la richesse qu'on trouve dans ces quartiers.
Ça, Madame Nicolet Cabanne, c'est un point de vue qui est unanimement partagé par les élus de la mairie de Tours, ou c'est le vôtre ?
Non, c'est heureusement un point de vue qui est partagé par l'ensemble des élus de Tours. En tout cas, l'ensemble des élus de la majorité. Je peux pas parler pour ceux de l'opposition, parce que par principe, on se connaît un peu moins bien. Et encore, je pense que malgré tout, ils partagent eux aussi la même vision de ces quartiers. Quand on est habitant d'une ville, quand on est élu d'une ville, la définition, c'est d'abord d'aimer cette ville et d'aimer les habitants. Et on n'a pas envie d'en laisser sur le bord du chemin. On n'a pas envie qu'il y ait des fractures territoriales qui s'ajoutent aux fractures sociales. Et le but, c'est vraiment de les réduire. Et la politique de la ville, c'est un très bel outil pour ça.
Merci. Alors, je me munis de cette de cet organigramme, je me tourne vers Madame Picot, parce que là, justement, Madame Nicolet Cabanne disait que c'était tout un maillage, tout un travail au sein de la ville de Tours. Et donc, je vois sur ce document, direction de la cohésion sociale, présentation des missions. Est-ce que vous voudriez nous expliquer, peut-être pas en détail vraiment absolu, mais nous expliquer qu'est-ce que votre service, en fait, parce qu'on voit en effet qu'il y a énormément de missions.
Alors, la direction de la cohésion sociale, c'est un service, Olivier le définit comme un service qui fait du bien aux habitants. Moi, je définis qui prend soin des gens. Moi, je définis comme un service au service des habitants et à l'écoute de ces derniers. Donc, sur plusieurs dynamiques, notamment la politique de la ville, les 7 quartiers prioritaires, toutes les actions qu'on mène dans le cadre du contrat de ville, la réussite éducative, qui est un dispositif à destination des enfants de 2 à 16 ans, qui les aide, eux, c'est un peu l'ancêtre de la maison de la réussite. On est un peu plus en amont des jeunes qu'on accueille ici. La jeunesse, c'est-à-dire qu'on a un équipement jeunesse à Tours-Nord et qu'on coordonne les activités jeunesse sur toute la ville. On s'occupe également de la vie associative, donc soutien au secteur associatif, mais également avec de beaux projets comme le prochain, celui de la maison des associations qui est sur le même territoire, dont Madame Nicolet pourra vous dire un mot. On accompagne les centres sociaux et les équipements de vie sociale qui sont présents sur tous nos quartiers prioritaires aujourd'hui. On a également des dispositifs de démocratie participative, les uns adressés aux jeunes collégiens de 4e et 3e, qui est le conseil municipal des jeunes, et l'autre qui est le conseil de quartier. Il y en a 8 sur la ville qui sont récents, qui datent de 2018. Ils succèdent au conseil de vie locale, pardon. Et on s'occupe de l'emploi et de l'insertion, de la solidarité. Dans ce cadre-là, on soutient toutes les associations. Alors, je vais pas les citer parce que celles que je vais pas citer vont pas être contentes. Toutes les associations qui aident les autres également. Et on soutient surtout le CCAS, qui est le bras armé de la ville pour toute la politique sociale de cette dernière. On s'occupe du logement social et de missions handicap et seniors. Et santé, c'est-à-dire qu'on a des chargés de mission sur ces secteurs qui montent des actions, qui accompagnent le secteur associatif sur ces champs pour développer des actions. On est en soutien soit financier, soit logistique, où on est à l'origine de dispositifs, notamment sur la santé, les jeudis de la santé, qui sont des conférences gratuites pour que les habitants de Tours prennent soin d'eux. Et on avait fait, et après, les équipements de quartier, comme la Maison de la Réussite, ici, qui rayonne sur toute la ville, mais aussi à Tours-Nord, le Forum Europe, qui intègre notamment une mission locale et une maison de service au public, c'est-à-dire ces fameuses maisons qui vont devenir Maison France Service et qui accompagnent les publics dans toutes leurs démarches dématérialisées. Et on a enfin le dernier équipement, c'est le centre de vie du Sanitas, qui regroupe une crèche, une bibliothèque, notre direction, mais également des associations pérennes, le planning familial, la mission locale de Touraine et France Victime, et quelques permanences associatives également. Voilà, très rapidement, cette direction.
C'est une direction qui œuvre dans beaucoup de domaines du quotidien des habitants. Et pour avoir une autre réponse à votre question juste avant, si tous les élus participaient, il y a 14 élus qui travaillent au sein de cette direction. 14 élus, c'est beaucoup, hein. Sachant qu'on est 21 adjoints au niveau de la ville, 14 élus qui interviennent, c'est plus la moitié.
Alors, Madame Nicolet Cabanne, est-ce que, justement, puisque vous en parliez, Madame Picot, est-ce que vous voulez préciser qu'est-ce que vous aimeriez dire de la future maison des associations, puisque nous sommes au Sanitas? Alors, parlons-en.
Alors, la maison des associations, c'est en fait l'autre bâtiment de l'ancien collège Pasteur. La maison de la réussite, elle est installée dans les bâtiments administratifs, l'ancien bâtiment administratif, et le bâtiment des classes, en fait, sera transformé en maison des associations. Alors, on va ouvrir en deux temps parce que le bâtiment est grand et puis il y a du désamiantage à faire. Mais le rez-de-chaussée qui est actuellement occupé par la crèche Lexia en attendant la fin de la reconstruction du nouveau bâtiment est lui opérationnel très rapidement. Donc, les portes vont ouvrir en décembre tout début décembre. Et on trouvera dans ce lieu des salles de réunion, des salles d'activité qui seront mises à disposition des associations, mais aussi, et c'est très important, beaucoup de services, des formations gratuites qui seront dispensées aux associations qui le souhaiteront, un espace numérique qui l'a aussi mis à disposition gratuitement. Il y aura un espace de coworking. Et puis un petit peu plus tard, il va y aussi avoir une pépinière d'associations parce qu'on a quasiment 200 associations nouvelles par an sur la ville. Et une association qui commence ne sait pas forcément comment faire sa première AG, comment écrire son règlement intérieur. Donc il y aura sur place du tutorat par des associations beaucoup plus capées et dont finalement c'est l'objet social, comme France Touraine Bénévolat. Et ce sera là encore un beau lieu solidaire qui sera pleinement opérationnel en 2021, on va dire, dans deux ans. On était dans deux ans.
Eh bien, merci. Alors, peut-être que vous voudriez préciser quelles activités ont lieu ici. Je crois qu'il y a aussi des réunions d'information. Il y a plein de choses, entre autres des choses pour les 50 millions de consommateurs. Non, c'est UFC Que Choisir. Je donne la parole.
Alors, effectivement, dans les associations qu'on accueille et qui mènent des actions chez nous, on accueille les actions des associations, c'est important. On va accueillir effectivement l'UFC Que Choisir 37 pour toute personne qui a une question relative à la consommation, aux relations avec son bailleur privé, avec sa banque, avec sa mutuelle. Je prends souvent l'exemple, quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois et qui se gourre sur un contrat de téléphone à 40 euros, c'est pas très grave. Quand on se trompe sur un contrat de téléphone à 40 euros et qu'on est au RSA, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est le genre de choses que l'UFC Que Choisir peut vraiment aider à régler rapidement. Donc ça, c'est une première chose, n'hésitez pas à nous contacter. La deuxième, on a tout un pôle autour de l'accueil de personnes étrangères ou non qui apprennent le français et qui, pour certaines raisons, ne le maîtrisent pas. Donc là, on va travailler avec le CRIA, avec la FCM et avec l'entrée d'ouvrières. On va travailler sur un projet qui s'appelle les Brigades Numériques, qui est un projet de remobilisation pour les jeunes entre 16 et 25 ans, et qui est mené notamment par l'Espace Passerelle, le 13. C'était Coop Axis qui le menait l'année dernière. Coop Axis il y a 2 ans, Artefact l'année dernière, et l'Espace Passerelle cette année. On va y arriver. Voilà, on travaille avec la Chambre des Métiers, on travaille avec Solidarité Nouvelle contre le chômage, c'est des permanences menées par des bénévoles pour aider des personnes qui ont des besoins spécifiques à retrouver un emploi. Et dans les partenaires avec lesquels on commence à travailler, on peut citer par exemple l'association Codico qui travaille pour les personnes réfugiées statutaires. Donc ça, c'est tous nos partenaires qui mènent des actions dans nos locaux. Ensuite, il y a les actions qu'on mène nous, l'aide aux démarches administratives du quotidien, du coaching aussi mené par un travailleur social. Quand on parle de coaching, on parle bien d'entretiens qui peuvent aider à mettre de l'ordre un petit peu quand il y a beaucoup de choses qui nous aident pas dans la vie et qu'il faut mettre de l'ordre. Voilà. Donc on peut parler de permanence, oui, de soutien, d'écoute et d'accompagnement ou de coaching. Donc ça on le fait, c'est gratuit bien entendu, l'ensemble de nos actions sont gratuites. On a le soutien scolaire et service public, on a le soutien scolaire qui est présent aussi, donc là c'est 70 jeunes accompagnés à l'année en accueil libre la plupart du temps en partenariat avec l'université de Tours qui nous dépêche des étudiants bénévoles pour accompagner les élèves. Et puis des permanences tout l'été en individuel pour préparer sa rentrée, préparer son établissement. Je rappelle à tous les jeunes qu'en ce moment Parcoursup est réouvert, vous pouvez refaire des vœux en ce moment, c'est le moment, venez nous voir, on vous expliquera tout ça. Les démarches pour la rentrée, les inscriptions, un coup de main là-dessus, on est là. Voilà, n'hésitez pas. Ceux qui n'ont pas d'établissement, c'est toujours le moment de faire quelque chose. On peut vous accompagner vers le CIO, on sait où ils sont. Donc n'hésitez pas à pousser la porte et à venir nous voir.
Tout l'été.
Tout l'été, bien sûr, on est ouvert tout l'été.
Avez-vous peut-être un compte sur les réseaux sociaux, un site internet ou un numéro de téléphone ?
Pour nous contacter, effectivement, on a une page Facebook, le téléphone 02 47 36 20 65 ou maisondelaréussite@ville-tour.fr.
Et l'adresse 92 rue du Sanitas, en face de Tour Habitat, ancien collège Pasteur, les habitants du Sanitas reconnaîtront et les autres, on pourra leur indiquer facilement. Et ça se trouve complètement sur... Waze sur Google, on peut tout trouver, on est guidé facilement, on trouve.
Tout le monde est le bienvenu. Si quelqu'un a n'importe quelle question ou n'importe quel problème,
c'est génial. Il faut venir.
Les extraits sonores proviennent d'une vidéo présentant la Maison de la Réussite réalisée par la ville de Tours.